20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous. Qui se cachait derrière le compositeur d'Hitchcock, celui qui nous a tellement fait frissonner avec ses terrifiants sons de cordes dans l'aigu pour imiter les coups de poignard et les cris dans la fameuse scène de la douche de Psychose, celui qui a contribué à créer des atmosphères parmi les plus tourmentées, voire lugubres, du cinéma américain. Un homme doté d'une immense culture littéraire et musicale, fasciné dès l'enfance par l'Angleterre géorgienne et victorienne, un musicien dont la perfection du métier est unanimement louée, écrit Carole Beffa dans l'introduction de sa passionnante biographie, consacrée donc à Bernard Herrmann, biographie publiée aux éditions Actes Sud. Carole Beffa sera justement à notre micro ce soir pour nous éclairer sur la vie et la personnalité du compositeur américain. Le temps d'un coup de projecteur, comme tous les soirs sur l'actualité musicale. Les héritiers de Ravel et du peintre Alexandre Benois se déchirent en ce moment devant la justice autour des droits générés par le Boléro. La question épineuse est ici de savoir s'il s'agissait finalement d'une œuvre collaborative. Selon les plaignants, à savoir les héritiers d'Alexandre Benois, le Boléro était à l'origine d'une musique de ballet et serait ainsi l'œuvre non pas d'un mais de plusieurs créateurs, parmi lesquels Alexandre Benois. La justice fera connaître sa décision à ce sujet le 24 juin. Philippe Gau vous en dit plus dans son article publié sur le site et l'application de Radio Classique. Les Apaches, qui viennent de remporter un vif succès avec leur spectacle Street Art au musée d'Orsay, spectacle que l'on évoquait il y a quelques jours en compagnie de leur chef Julien Masmondet dans ce journal du classique. Les Apaches donc viennent de lancer une campagne de financement participatif pour soutenir leur prochain enregistrement. Alors pour participer, pour les aider, rendez-vous sur le site Kiss Kiss Bank Bank. Cela vient de paraître en digital et ce sera disponible dans quelques jours en physique. L'intégrale des symphonies de Beethoven par Gianandrea Nozeda et le National Symphony Orchestra de Washington. Une intégrale captée lors de concerts donnés au Kennedy Center à Washington et publiée par le propre label de l'orchestre NSO. Une intégrale qui témoigne de la belle complicité du chef italien Gianandrea Nozeda avec cet orchestre dont il est depuis un peu plus de 6 ans le directeur musical.
Thank you.
Quelques notes du final de la 4e symphonie de Beethoven par Gianandrea Nozeda et le National Symphony Orchestra of Washington, un extrait de cette nouvelle et superbe intégrale des symphonies de Beethoven, publiée par le NSO, le label de l'orchestre.
L'Or Maison sur Radio Classique.
C'est un compositeur dont le nom reste lié au monde du cinéma, à celui d'Orson Welles, de Martin Scorsese, de Truffaut, mais surtout d'Alfred Hitchcock. Bernard Herrmann était aussi chef d'orchestre, a collaboré à de nombreuses fictions radiophoniques, a même composé un opéra et avait un tempérament assez difficile. C'est ce qu'on apprend en lisant la passionnante biographie signée Carole Beffa, parue aux éditions Actes Sud. Carole Beffa qui est notre invitée ce soir. Bonsoir.
Bonsoir.
En tant que compositeur, vous-même, vous avez été influencé par Bernard Herrmann. Vous avez en tout cas des affinités avec son langage.
Probablement un certain goût pour les couleurs mineures, une certaine plasticité de style. Je ne vais pas écrire de la même façon si je mets en musique un conte musical, si j'écris une étude pour piano par exemple. Pas de la même façon si j'écris de la musique de chambre ou de la musique pour chœur. Donc il y a un certain pragmatisme qui est peut-être ce pragmatisme dont à peu près tous les compositeurs de musique de film, Bernard Herrmann le premier, doit posséder des traces.
En tant que compositeur de musique de film, donc lié à l'image, il avait un langage, un style très narratif.
Oui, il pouvait avoir ce style narratif qu'il avait hérité de certains de ses illustres prédécesseurs, le plus grand d'entre eux étant probablement Korngold, ce génie tous azimuts de la musique, cet enfant prodige. Mais en plus de Korngold, il va avoir tendance, à côté de longs développements symphoniques, à être capable aussi parfois d'écrire de brèves virgules musicales qui lui permettent de changer d'atmosphère en un clin d'œil, ce qui est évidemment extrêmement pratique quand on a affaire à un montage parfois serré, et ce que l'on retrouve dès ses toutes premières musiques de film, par exemple Citizen Kane d'Orson Welles.
Des virgules musicales qui nous ramènent à sa fonction à la radio, puisqu'il a travaillé à la radio, c'est ce qu'on découvre en lisant votre ouvrage. Carole Beffa, il a ainsi reçu une solide éducation musicale, mais pas forcément en tant qu'élève très studieux. Il préférait aller au concert, lire des livres, voire lire le traité d'orchestration de Berlioz, plutôt que de suivre les cours avec assiduité. Il s'est mis à fréquenter les jeunes compositeurs américains de son époque et puis il avait une idole, c'était Charles Ives.
Oui, il a vécu dans l'effervescence artistique et musicale en particulier des États-Unis des années 30, pour lequel Ives n'était pas forcément un compositeur très connu, loin de là, mais il a contribué à le faire connaître en le jouant, en l'enregistrant par la suite, en contribuant même à ce que sa musique soit diffusée sous forme de partition. Donc il y a Ives, auquel on ne l'associe pas forcément, même s'ils peuvent avoir en partage un certain style énigmatique, un côté élégiaque dans certaines partitions de Herrmann. Et puis il y a aussi d'autres bad boys de la musique américaine dont il se sentait proche. Ça lui a permis aussi d'essayer de voir ce que pouvait être l'américanité en musique, de se tourner vers le jazz, même si dans l'essentiel, dans sa production par la suite, il n'utilise pas tellement de formes qui se rapportent au jazz. Il le fait un tout petit peu dans une partition un peu singulière, Faux coupable, d'Alfred Hitchcock, puisque le héros est un contrebassiste de jazz. Et puis sa toute dernière partition,
Taxi Driver,
où on a de temps en temps ces mélodies sinueuses de saxophone qui sont là pour suggérer un peu les fêlures de l'être de notre héros, joué par Robert De Niro, dans un fond un peu jazzistique.
Alors on apprend en lisant votre ouvrage, Carole Beffa, que Bernard Herrmann, il a eu évidemment une grande carrière au cinéma, une grande carrière à Hollywood, mais également, et je l'évoquais tout à l'heure, une carrière à la radio. C'est d'ailleurs là qu'il a commencé, aux côtés notamment d'un certain Orson Welles. Et il a été le complice de l'un des plus célèbres canulars qui a fait paniquer toute l'Amérique, c'était la Guerre des Mondes.
Tout à fait. Alors la Guerre des Mondes, c'est cette narration où des extraterrestres sont censés s'attaquer aux terriens et qui a fait courir un vent de panique aux États-Unis. Les deux coupables de ce canular digne de potache, c'était évidemment Orson Welles et Bernard Herrmann. Et du jour au lendemain, ils deviennent célèbres. Et c'est ce qui va inciter par la suite Orson Welles pour son premier film, coup de génie d'un jeune réalisateur d'une vingtaine d'années, à utiliser Bernard Herrmann comme son musicien.
Thank you. Un extrait de la musique composée par Bernard Herrmann pour Citizen Kane, joué ici par le National Philharmonic Orchestra, dirigé par Charles Gerhardt. Citizen Kane, premier film d'Orson Welles et première musique de film de Bernard Herrmann. Bernard Herrmann que l'on évoque ce soir sur Radio Classique avec Carole Beffa. Alors c'est donc Orson Welles qui a fait venir Bernard Herrmann dans le monde du cinéma. Il a ensuite collaboré avec de très nombreux réalisateurs avant sa rencontre avec Hitchcock et même après. On oublie un peu qu'il a composé des musiques pour énormément de films, des réalisateurs d'univers assez différents, même du western.
Tout à fait. Il a fait un western, L'Homme du Kentucky, avec comme cinéaste Burt Lancaster, qui était d'ailleurs son condisciple dans sa jeunesse, à une époque où Lancaster était un champion de natation, n'était pas encore l'acteur et réalisateur qu'il est devenu. Mais il a aussi contribué à des films d'aventure, à des thrillers, ça évidemment on le sait mieux grâce à Hitchcock, à des films fantastiques, à des films merveilleux, dont certains s'inspirent de certains trucages, films d'animation. Il s'est intéressé à peu près à tout, il a même collaboré à quelques films qui n'étaient pas des chefs-d'œuvre, mais à chaque fois on peut dire que sa musique est originale, inspirée et toujours d'une facture impeccable.
Et il avait développé, ce que vous racontez dans cet ouvrage, Carole Beffa, dès son adolescence, un goût pour le drame, voire pour le lugubre, ce que l'on retrouve d'ailleurs dans ses musiques de films souvent assez étranges, qui fonctionnent parfaitement avec notamment l'univers d'Hitchcock.
Tout à fait. Il a une prédilection pour un certain univers gothique, pour le premier romantisme anglais, qui va l'inspirer d'ailleurs pour Wuthering Heights, son opéra, qui est lié probablement aussi à un certain nombre de lectures d'enfance et d'adolescence. C'était un très grand lecteur, il avait une immense culture littéraire, et Maupassant, Alexandre Dumas, mais aussi Conan Doyle, Dickens, Tolstoï vont devenir ses lectures de chevet.
Les Sœurs Brontë, pour son opéra.
Évidemment, les Sœurs Brontë, pour son opéra, pour Jane Eyre, qui est une partition peut-être la plus romantique qu'il écrit, peu de temps après avoir collaboré avec Orson Welles. Tout cet univers allait le fasciner et globalement, il avait une passion, lui américain, pour l'Angleterre géorgienne et victorienne.
Alors Bernard Herrmann, c'est bien entendu, en tout cas pour tout le monde, le grand complice d'Alfred Hitchcock. Ils vont travailler ensemble pendant 11 ans sur 8 films. Qu'est-ce qui les rapprochait ? Ils avaient des tempéraments d'ailleurs assez similaires, assez difficiles, alors, tous les deux.
Effectivement, deux caractères un peu soupolés, de tempéraments éruptifs, une certaine soif de revanche sociale, on peut dire, un perfectionnisme absolu qui les conduit l'un et l'autre à une certaine forme d'autoritarisme, mais ils se sont très bien entendus, au moins pendant les 9 premières années de leur complicité qui prend fin brutalement avec le rideau déchiré, parce que Hitchcock n'est pas satisfait de la musique de Herrmann et surtout il considère qu'il n'a pas pris en compte les recommandations qu'il lui avait faites auparavant.
Bernard Herrmann était très interventionniste dans les films d'Hitchcock, au-delà de son rôle de compositeur de musique de film.
Il pouvait l'être, il a été une fois d'ailleurs pour la fameuse scène de la douche dans Psychose, scène que tout le monde a à l'esprit avec ses entailles auditives qui sont à la fois les cris de la victime et les coups de couteau qui s'abattent sur elle. Il se trouve que pour cette scène, cette fameuse scène, d'abord Hitchcock ne voulait pas de musique du tout. Et il a fallu la persévérance et la détermination de Herrmann pour lui faire écouter et visionner la scène d'abord avec musique, puis sans musique, pour que Hitchcock se rende compte qu'il fallait effectivement de la musique, celle d'Herrmann.
C'était un véritable coup de génie. Alors, il nous faisait frissonner avec Psychose, Bernard Herrmann, et puis il avait développé un langage assez étrange, post-romantique, comment pourrait-on le décrire, le langage surréaliste qu'il va développer aux côtés d'Alfred Hitchcock.
Alors, il y a effectivement une veine post-romantique, comme avant lui Korngold, mais également Miklós Rocha et d'autres encore. À cela vient s'ajouter probablement sa fascination pour Bartok, pour Stravinsky, et puis son amour de toujours, cet amour pour la musique française avec Debussy, Ravel en particulier. Dans la partition qu'il écrit pour Vertigo, parce qu'il s'agit d'une histoire d'amour et de mort, assez tristanesque, puisqu'elle revisite d'une certaine façon le mythe de Tristan et Iseut, il y a probablement l'influence la plus wagnérienne de toute son œuvre.
Un extrait de Vertigo, sueur froide d'Alfred Hitchcock, musique de Bernard Herrmann, interprétée ici par Esa-Pekka Salonen, à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles, que l'on écoute ce soir sur Radio Classique en compagnie de Carole Beffa, auteur de cette passionnante biographie de Bernard Herrmann, publiée aux éditions Actes Sud. Alors, on écoutait ici un enregistrement d'Esa-Pekka Salonen, qui adore la musique de Bernard Herrmann, qui la place au même niveau que celle d'un Bruckner ou d'un Hindemith. Quelle relation Bernard Herrmann avait-il avec les autres compositeurs de son temps, avec le milieu professionnel de la musique?
C'était assez varié. Au début, tout allait bien. Et puis, il a été ensuite un peu jalousé par certains de ses confrères compositeurs. Et il est assez représentatif de ces compositeurs de musique de film qui aimeraient être reconnus également comme compositeurs de musique pour le concert, là où, réciproquement, leurs confrères compositeurs de musique pour le concert les jalousent parce que ils ont du succès, ils sont connus, ils gagnent de l'argent, il faut le dire de façon toute nette. Alors, il y avait une autre chose qui était que ce compositeur tellement tenté par le modernisme et l'avant-garde dans sa jeunesse, dans les années 30 en particulier, eh bien, a été, à tort ou à raison, considéré comme passéiste dans les années 50, et il était détesté de l'avant-garde européenne qui gravitait autour de Darmstadt, dont des compositeurs comme Nono, Boulez ou Stockhausen. Il le leur rendait bien, puisqu'à la fin de sa vie, Herrmann avait des mots qui n'étaient pas très tendres à l'égard de Pierre Boulez.
Alors, Bernard Herrmann, il a tout de même composé un opéra, cela a occupé, je crois, 8 années de sa vie, un opéra qu'il n'a jamais vu de son vivant, qui a été joué après sa mort. Vous l'avez entendu, je crois qu'il y a un enregistrement.
Oui.
Qu'est-ce qu'il vaut? Enfin, est-ce que c'est une œuvre intéressante?
C'est une très belle œuvre, une œuvre un peu longue, sans doute, mais il a fallu, effectivement, dans le foisonnement des personnages de l'original, donc de The Wuthering Heights, il a fallu trancher ce que Bernard Herrmann a fait avec la complicité de sa première femme, qui était aussi sa librettiste. C'est une œuvre qui s'inspire, là encore, en grande partie d'un vocabulaire post-romantique, matiné d'impressionnisme, avec souvent des ruissellements de perles sonores qui marchent très bien. Et là où beaucoup d'opéras achoppent sur une des difficultés essentielles, c'est-à-dire la vocalité au XXe siècle, eh bien, Bernard Herrmann écrit une musique éminemment lyrique, et c'est tant mieux.
D'ailleurs, il prenait, vous l'écrivez dans ce livre, Carole Beffa, il prenait une simplicité lyrique qui était donc en contradiction avec les courants modernistes de son temps, mais qui revient aujourd'hui, finalement.
Tout à fait. Peut que spéculer sur ce qu'il aurait pensé, par exemple, du minimalisme, ce qu'il aurait pu penser de la musique de John Adams, qui a, je crois, beaucoup d'admiration pour lui, puisqu'il meurt en 75 et que la révolution minimaliste, si elle commence à la fin des années 60, elle se poursuit surtout à partir du milieu des années 70. Ce qui est certain, c'est que cette recherche d'une certaine efficacité en musique et puis d'une simplicité au sens peut-être de Ravel, par exemple dans L'enfant et le sortilège, ou surtout dans Ma mère loi, c'est une chose qu'il avait comprise et qu'il utilisait dans sa propre musique.
Voilà, Bernard Herrmann, dont on découvre le parcours, la vie, dans cette passionnante biographie que vous avez signée, Carole Beffa, publiée aux éditions Actes Sud. Donc Bernard Herrmann, qui après Alfred Hitchcock, va collaborer avec différents réalisateurs. Alors il aura une petite traversée du désert, et puis François Truffaut viendra le solliciter. Il collaborera également avec Brian De Palma, et avec Martin Scorsese, pour lequel il écrira sa dernière musique de film, Taxi Driver. Je crois qu'il mourra peu de temps avant la sortie du film. Et il utilisera dans cette musique de film le jazz, comme il l'avait quasiment rarement fait.
Tout à fait. Il utilise aussi la musique qu'il avait écrite pour une comédie musicale, Le Roi des Schnorrer, qui s'inspire de ses racines ashkénazes. Et c'est une très belle partition que cette partition testamentaire, donc Taxi Driver, pour ce film qui est un chef-d'œuvre.
Voilà, avant d'écouter encore quelques notes de Bernard Herrmann pour conclure cette émission, un petit mot sur un autre ouvrage, et même un triple ouvrage, que vous avez co-signé, Carole Beffa, avec Guillaume Métayer, alors sur une figure totalement méconnue, non seulement de la musique, mais aussi de l'art en général, Camille Benoît, il est né en 1851, il est mort en 1923, il était musicien, mais il était surtout également critique d'art, il était traducteur de Goethe et de Wagner. Qu'est-ce qui vous a donné envie de remettre à l'honneur, avec Guillaume Métayer, cette figure complètement oubliée de la vie culturelle française?
Alors, entre autres spécialités, Guillaume Métayer, qui est lui-même traducteur, est un spécialiste d'Anatole France. Il se trouve que Camille Benoît était un grand ami d'Anatole France. Et puis, il a mis en musique Anatole France. C'est une découverte que nous avons faite pour une partition qui était d'abord, à tort, attribuée à un autre méconnu de l'histoire de la musique, qui est Raymond Bonheur, neveu de Rosa Bonheur. Nous avons considéré que cette partition, Prélude de noces corinthiennes, qui est un chef-d'œuvre absolu, et que nous allons peut-être voir jouer à l'occasion d'un colloque sur Anatole France en octobre prochain, donc une renaissance. Cette partition est un chef-d'œuvre. Camille Benoît, c'est vraiment le polymathe de génie, un touche-à-tout de génie, et que, hélas, l'histoire, pour le moment, a bien oublié.
Mais qu'on peut redécouvrir grâce à vous. 3 volumes à la recherche d'un polymathe oublié, justement. Camille Benoît, critique musicale, donc on découvre un peu son point de vue sur les compositeurs. Et puis Camille Benoît, compositeur. Il y a des traces de sa musique, pas
pour
encore?
Pour le moment, non. On espère qu'on va pouvoir réaliser un enregistrement de certaines de ses musiques, notamment sa musique pour piano, sa musique pour voix et piano, parce qu'il y a, encore une fois, des chefs-d'œuvre dans un style plutôt franquiste, mais déjà très personnel.
Voilà. Et puis on peut voir son visage, on peut voir à quoi il ressemblait dans un célèbre tableau de Fantin-Latour qui est exposé au musée d'Orsay, où on le voit notamment aux côtés d'autres compositeurs comme Chabrier. On va se quitter. Alors c'est paru ce somptueux coffret, paru aux éditions La Rumeur Livre, mais on va se quitter, on va revenir à Bernard Herrmann avec une musique de Bernard Herrmann que vous avez choisie vous-même, Carole Beffa. C'est la musique composée pour L'Aventure de Madame Muir.
Oui, alors c'est une partition qui date de 1947, si je ne m'abuse, très ravelienne, une des plus inspirées qui ait été écrite et une de celles qui avait sa préférence.
Merci infiniment, Carole Beffa. Donc je rappelle la sortie de votre biographie de Bernard Herrmann aux éditions Actes Sud. Merci beaucoup.
Merci à vous, Laure.
Un extrait de la bande originale de L'Aventure de Madame Muir, film de Joseph Mankiewicz, datant de 1947 avec Gene Tierney et Rex Harrison, une musique signée Bernard Herrmann. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Bertrand Dorini pour sa réalisation. La semaine prochaine, c'est Jean-Michel Duez qui sera aux commandes de l'émission, mais j'aurai le plaisir de vous retrouver d'ici là ce week-end et notamment samedi et dimanche matin dès 8h30. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Francis Drezel. Très belle soirée en musique à l'écoute de Radio Classique.